Chapitre 4 Ménibus sur 10 Campana Muta. Ursus palpa le feutre du chapeau, le drap du manteau, la serge du capingo, le cuir de l'esclavine. Ne put douter de cette défroque. Et d'un geste bref et impératif, sans dire un mot, désigna à Maître Nicless la porte de l'inn. Maître Nicless ouvrit. Ursus se précipita hors de la taverne. Maître Nicless le suivit des yeux et vit Ursus courir autant que le lui permettaient ses vieilles jambes dans la direction prise le matin par le Wapentake en menant Gwynplaine. Un quart d'heure après, Ursus essoufflé arrivait dans la petite rue où était l'arrière-guichet de la geôle de Southwark et où il avait passé déjà tant d'heures d'observation. Cette ruelle n'avait pas besoin de minuit pour être déserte, mais triste le jour, elle était inquiétante la nuit. Personne ne s'y hasardait passé une certaine heure. Il semblait qu'on craignît que les deux murs ne se rapprochassent et qu'on eût peur, s'il prenait fantaisie à la prison et au cimetière de s'embrasser, d'être écrasé par l'embrassement. Les fées nocturnes, les saules tronqués de la ruelle Vauvert à Paris étaient de la sorte mal famés. On prétendait que la nuit, ces moignons d'arbres se changeaient en grosses mains et empoignaient les passants. D'instinct, le peuple de Southwark évitait, nous l'avons dit, cette rue entre prison et cimetière. Jadis, elle avait été barrée la nuit d'une chaîne de fer. Très inutile, car la meilleure chaîne pour fermer cette rue, c'était la peur qu'elle faisait. Ursus y entra résolument. Quelle idée avait-il ? Aucune. Il venait dans cette rue aux informations. Allait-il frapper la porte de la geôle ? Non, certes. Cet expédient effroyable et vain ne germait pas dans son cerveau. Tenter de s'introduire pour demander un renseignement ? Quelle folie! Les prisons n'ouvrent pas plus à qui veut entrer qu'à qui veut sortir. L'orgon ne tourne que sur la loi. Ursus le savait. Que venait-il donc faire dans cette rue? Voir. Voir quoi? Rien. On ne sait pas. Le possible. Se retrouver en face de la porte où Gwynplaine avait disparu, c'était déjà quelque chose. Quelquefois, le mur le plus noir et le plus bourru parle, et d'entre les pierres, une lueur sort. Une vague transudation de clarté se dégage, parfois d'un entassement fermé et sombre. Examiner l'enveloppe d'un fait, c'est être utilement aux écoutes. Nous avons tous cet instinct de ne laisser, entre le fait qui nous intéresse et nous, que le moins d'épaisseur possible. C'est pourquoi Ursus était retourné dans la ruelle où était l'entrée basse de la maison de force. Au moment où il s'engagea dans la ruelle, il entendit un coup de cloche, puis un second. « Tiens, pensa-t-il, serait-ce déjà minuit ?» Machinalement, il se mit à compter. « 3, 4, 5 » Il songea « Comme les coups de cette cloche sont-ce passés ?» Quelle lenteur! 6, 7. Et il fit cette remarque. Quel son lamentable! 8, 9. Ah, rien de plus simple! Être dans une prison, cela attriste une horloge. 10. Et puis le cimetière est là. Cette cloche sonne l'heure aux vivants et l'éternité aux morts. 11. Hélas, sonner une heure à qui n'est pas libre, c'est aussi sonner une éternité. 12. Il s'arrêta. Oui, c'est minuit. La cloche sonna un 13e coup. Ursus tressaillit. 13. Il y eut un 14e coup, puis un 15e. Qu'est-ce que cela veut dire? Les coups continuèrent à longs intervalles. Ursus écoutait. Ce n'est pas une cloche d'horloge, c'est la cloche Muta. Ou si je disais, comme minuit sonne longtemps. Cette cloche ne sonne pas, elle tinte. Que se passe-t-il de sinistre? Toute prison autrefois, comme tout monastère, avait sa cloche dite Muta, réservée aux occasions mélancoliques. La Muta, la muette, était une cloche tintant très bas, qui avait l'air de faire son possible pour n'être pas entendue. Ursus avait regagné l'encoignure commode au guet, d'où il avait pu, pendant une grande partie de la journée, épier la prison. Les tintements se suivaient, à une lugubre distance l'un de l'autre. Un glas fait dans l'espace une vilaine ponctuation. Il marque dans les préoccupations de tout le monde des alinéas funèbres. Un glas de cloche ressemble à un râle d'homme, annonce d'agonie. Si dans les maisons, çà et là, aux environs de cette cloche en branle, il y a des rêveries éparses et en attente, ce glas les coupe en tronçons rigides. La rêverie indécise est une sorte de refuge. On ne sait quoi de diffus dans l'angoisse permet quelque espérance de percer. Le glas, désolant, précise. Cette diffusion, il la supprime. Et dans ce trouble, où l'inquiétude tâche de rester en suspens, il détermine des précipités. Un glas parle à chacun dans le sens de son chagrin ou de son effroi. Une cloche tragique, cela vous regarde. Avertissement. Rien de sombre comme un monologue sur lequel tombe cette cadence. Les retours égaux indiquent une intention. Qu'est-ce que ce marteau, la cloche, forge sur cette enclume, la pensée? Ursus, confusément, comptait, bien que cela n'eût aucun but, les tintements du glas. Se sentant sur un glissement, il faisait effort pour ne point ébaucher de conjectures. Les conjectures sont un plan incliné où l'on va inutilement trop loin. Néanmoins, que signifiait cette cloche? Il regardait l'obscurité à l'endroit où il savait qu'était la porte de la prison. Tout à coup, à cet endroit, même qui faisait une sorte de trou noir, il y eut une rougeur. Cette rougeur grandit et devint une clarté. Cette rougeur n'avait rien de vague. Elle eut tout de suite une forme et des angles. La porte de la geôle venait de tourner sur ses gonds. Cette rougeur en dessinait le cintre et les chambranles. C'était plutôt un entrebâillement qu'une ouverture. Une prison, cela ne s'ouvre pas, cela bâille. D'ennui, peut-être. La porte du guichet donna passage à un homme qui avait une torche à la main. La cloche ne discontinuait pas. Ursus se sentit saisi par deux attentes. Il se mit en arrêt, l'oreille au glas, l'œil à la torche. Après cet homme, la porte, qui n'était qu'entrebâillée, s'élargit tout à fait et donna issue à deux autres hommes, puis à un quatrième. Ce quatrième était le Wapentek, visible à la lumière de la torche. Il avait au poing son bâton de fer. À la suite du Wapentek, défilèrent, débouchant de dessous le guichet, en ordre, deux par deux, avec la rigidité d'une série de poteaux qui marcheraient, des hommes silencieux. Ce cortège nocturne franchissait la porte basse couple par couple, comme les binis d'une procession de pénitents, sans solution de continuité, avec un soin lugubre de ne faire aucun bruit, gravement, presque doucement. Un serpent qui sort d'un trou a cette précaution. La torse faisait saillir les profils et les attitudes. Profil farouche, attitude morne. Ursus reconnut tous les visages de police qui, le matin, avaient emmené Gwynplaine. Nul doute, c'étaient les mêmes. Ils reparaissaient. Évidemment, Gwynplaine aussi allait reparaître. Il l'avait amené là. il le ramenait. C'était clair. La prunelle d'Ursus redoubla de fixité. Mettrait-on Gwynplaine en liberté? La double file des gens de police s'écoulait de la voûte basse très lentement, et comme goutte à goutte. La cloche, qui ne s'interrompait point, semblait leur marquer le pas. En sortant de la prison, le cortège, montrant le dos à Ursus, tournait droite dans le tronçon de la rue opposée à celui où il était posté. Une deuxième torche brilla sous le guichet. Ceci annonçait la fin du cortège. Ursus allait voir ce qu'ils emmenaient. Le prisonnier, l'homme. Ursus allait voir Gwynplaine. Ce qu'ils emmenaient apparut. C'était une bière. Quatre hommes portaient une bière couverte d'un drap noir. Derrière eux venait un homme ayant une pelle sur l'épaule. Une troisième torche allumée, tenue par un personnage lisant dans un livre, qui devait être un chapelain, fermait le cortège. La bière prit la file à la suite des gens de police qui avaient tourné à droite. En même temps, la tête du cortège s'arrêta. Ursus entendit le grincement d'une clé. Vis-à-vis la prison, dans le mur bas qui longeait l'autre côté de la rue, une deuxième ouverture de porte s'éclaira par une torche qui passa dessous. Cette porte, sur laquelle on distinguait une tête de mort, était la porte du cimetière. Le wapentake s'engagea dans cette ouverture, puis les hommes, puis la deuxième torche après la première. Le cortège y décrut comme le reptile rentrant. La file entière des gens de police pénétra dans cette autre obscurité qui était au-delà de cette porte, puis la bière, puis l'homme à la pelle, puis le chapelain avec sa torche et son livre, et la porte se referma. Il n'y eut plus rien qu'une lueur au-dessus d'un mur. On entendit un chuchotement, puis des coups sourds. C'était sans doute le chapelain et le fossoyeur qui jetaient sur le cercueil, l'un des versets de prière, l'autre des pelletés de terre. Le chuchotement cessa, les coups sourds cessèrent. Un mouvement se fit, les torches brillèrent, le wapentake repassa, tenant haut le weapon sous la porte rouverte du cimetière. Le chapelain revint avec son livre, le fossoyeur avec sa pelle. Le cortège reparut, sans le cercueil. La double file d'hommes refit le même trajet entre les deux portes, avec la même taciturnité et en sens inverse. La porte du cimetière se referma, la porte de la prison se rouvrit. La voûte sépulcrale du guichet se découpa en lueurs, l'obscurité du corridor devint vaguement visible, l'épaisse et profonde nuit de la geôle s'offrit au regard, et toute cette vision rentra dans toute cette ombre. Le glas s'éteignit, le silence vint tout clore, sinistre serrure des ténèbres. De l'apparition évanouie, ce ne fut plus que cela. Un passage de spectre qui se dissipe. Des rapprochements qui coïncident logiquement finissent par construire quelque chose qui ressemble à l'évidence. À Gwynplaine arrêté, au mode silencieux de son arrestation, à ses vêtements rapportés par l'homme de police, à ce glas de la prison où il avait été conduit, venait s'ajouter, disons mieux, s'ajuster cette chose tragique. Un cercueil porté en terre. Il est mort, cria Ursus. Il tomba assis sur une borne. Mort, ils l'ont tué, Gwynplaine, mon enfant, mon fils. Et il éclata en sanglots. Chapitre 5. La raison d'État travaille en petit comme en grand. Ursus, il s'en vantait, hélas, n'avait jamais pleuré. Le réservoir des pleurs était plein, une telle plénitude où s'est accumulée goutte à goutte, douleur à douleur, toute une longue existence ne se vide pas en un instant. Ursus sanglota longtemps. La première larme est une ponction. Il pleura sur Gwynplaine, sur Dea, sur lui, Ursus, sur Homo. Il pleura comme un enfant. Il pleura comme un vieillard. Il pleura de tout ce dont il avait ri. Il acquitta l'arriéré. Le droit de l'homme aux larmes ne se périme pas. Du reste, le mort qu'on venait de mettre en terre, c'était ad quanon, mais Ursus n'était pas forcé de le savoir. Plusieurs heures s'écoulèrent. Le jour commença à poindre. La pâle nappe du matin s'étala, vaguement plissée d'ombre, sur le Bowling Green. L'aube vint blanchir la façade de Lynn Tadcaster. Maître Nicless ne s'était pas couché. Car parfois, le même fait produit plusieurs insomnies. Les catastrophes rayonnent en tous sens. Jetez une pierre dans l'eau et comptez les éclaboussures. Maître Nicless se sentait atteint. C'est fort désagréable, des aventures chez vous. Maître Nicless, peu rassuré et entrevoyant des complications, méditait. Il regrettait d'avoir reçu chez lui ces gens-là. S'il avait su, ils finiront par lui attirer quelques mauvaises affaires. Comment les mettre dehors maintenant? Il avait bail avec Ursus. Quel bonheur s'il s'en était débarrassé! Mais comment s'y prendre pour les chasser? Brusquement, il y eut à la porte de Lynn un de ces frappements tumultueux qui, en Angleterre, annonce quelqu'un. La gamme du frappement correspond à l'échelle de la hiérarchie. Ce n'était point tout à fait le frappement d'un lord, mais c'était le frappement d'un magistrat. Le tavernier, fort tremblant, entrebâilla son vasistas. Il y avait magistrat, en effet. Maître Nicless aperçut à sa porte, dans le petit jour, un groupe de police, en tête duquel se détachaient deux hommes, dont l'un était le justicier Corom. Maître Nicless avait vu le matin le justicier Corom, et il le connaissait. Il ne connaissait pas l'autre homme. C'était un gentleman gras, au visage couleur cire, en perruque mondaine et en cape de voyage. Maître Nicless avait grand peur du premier de ces personnages, le justicier Corom. Si maître Nicless eût été de la cour, il eût eu plus peur encore du second, car c'était Barkilphedro. Un des hommes du groupe cogna une seconde fois la porte, violemment. Le tavernier, avec une grosse sueur d'anxiété au front, ouvrit. Le justicier Corom, du ton d'un homme qui a charge de police et qui est très au fait du personnel des vagabonds, éleva la voix et demanda sévèrement « Maître Ursus !» L'hôtelier bonnet bas répondit « Votre honneur, c'est ici. »« Je le sais, » dit le justicier. « Sans doute, votre honneur. »«
Qu'il vienne. »«
Votre honneur, il n'est pas là. »«
Où est-il ?»«
Je l'ignore. »
« Comment ?
Il n'est pas rentré.
Il est donc sorti de bien bonne heure ?
Non, mais il est sorti bien tard. »«
C'est vagabond !» reprit le justicier.
« Votre honneur, » dit doucement maître Nicless, « le voilà. » Ursus, en effet, venait de paraître à un détour de mur. Il arrivait à Lynn. Il avait passé presque toute la nuit entre la geôle, où à midi il avait vu entrer Gwynplaine, et le cimetière, où à minuit il avait entendu combler une fosse. Il était pâle de deux pâleurs, de sa tristesse et du crépuscule. Le petit jour, qui est de la lueur à l'état de larve, laisse les formes, même celles qui se meuvent, mêlées à la diffusion de la nuit. Ursus, blême et vague, marchant lentement, ressemblait à une figure de songe. Dans cette distraction farouche que donne l'angoisse, il s'en était allé de ligne tête nue. Il ne s'était pas même aperçu qu'il n'avait point de chapeau. Ses quelques cheveux gris remuaient au vent. Ses yeux ouverts ne paraissaient pas regarder. Souvent, éveillé, on est endormi, de même qu'il arrive qu'endormi, on est éveillé. Ursus avait un air fou. « Maître Ursus !» cria le tavernier. « Venez, leurs honneurs désirent vous parler !» Maître Nicless, occupé uniquement d'amadouer l'incident, lâcha et en même temps eut voulu retenir ce pluriel « leurs honneurs », respectués pour le groupe, mais blessant peut-être pour le chef, confondu de la sorte avec ses subordonnés. Ursus eut le sursaut d'un homme précipité à bas d'un lit où il dormirait profondément. « Qu'est-ce ? » dit-il. Et il aperçut la police, et en tête de la police, le magistrat. Nouvelle et rude secousse. Tout à l'heure le wapentake, maintenant le justicier quorum. L'un semblait le jeter à l'autre. Il y a de vieilles histoires d'écueils comme cela. Le justicier quorum lui fit signe d'entrer dans la caverne. Ursus obéit. Govicom, qui venait de se lever et qui balayait la salle, s'arrêta, se rencogna derrière les tables, mit son balai au repos et retint son souffle. Il plongea son poing dans ses cheveux et se gratta vaguement, ce qui indique l'attention aux événements. Le justicier quorum s'assit sur un banc, devant une table. Barkilphedro prit une chaise. Ursus et maître Nicless demeurèrent debout. Les gens de police, laissés dehors, se massèrent devant la porte refermée. Le justicier quorum fixa sa prunelle légale sur Ursus et dit « Vous avez un loup ?» Ursus répondit « Pas tout à fait. »« Vous avez un loup ?» reprit le justicier en soulignant « loup » d'un accent décisif. Ursus répondit « C'est que... » et il se tut. « Délit !» repartit le justicier. Ursus hasarda cette plaidoirie. « C'est mon domestique !» Le justicier posa sa main à plat sur la table, les seins doigts écartés, ce qui est un très beau geste d'autorité. « Baladin, demain, à pareille heure, vous et votre loup, vous aurez quitté l'Angleterre. Sinon, le loup sera saisi, mené au greffe et tué. » Ursus pensa « Continuation des assassinats. » Mais il ne souffla mot et se contenta de trembler de tous ses membres. « Vous entendez ?» reprit le justicier. Ursus adhéra d'un hochement de tête. Le justicier insista. « Tuez !» Il y eut un silence. « Étrangler ou noyer ?» Le justicier quorum regarda Ursus. « Et vous en prison ?» Ursus murmura. « Mon juge, « soyez parti avant demain matin, sinon tel est l'ordre. »« Mon juge, quoi ? Il faut que nous quittions l'Angleterre, lui et moi ? » ?»« Oui. » »« Aujourd'hui ? » ?»« Aujourd'hui. » »« Comment faire ?» Maître Nicless était heureux. Ce magistrat qu'il avait redouté venait à son aide. La police se faisait l'auxiliaire de lui, Nicless. Elle le délivrait de ces gens-là. Le moyen qu'il cherchait, elle le lui apportait. Cet Ursus qu'il voulait congédier, la police le chassait. Force majeure, rien à objecter. Il était ravi. Il intervint. « Votre honneur, cet homme... » Il désignait Ursus du doigt. « Cet homme demande comment faire pour quitter l'Angleterre aujourd'hui ?» Rien de plus simple, il y a tous les jours et toutes les nuits aux amarrages de la Tamise, de ce côté-ci du pont de Londres, comme de l'autre côté, des bateaux qui partent pour les pays. On va d'Angleterre en Danemark, en Hollande, en Espagne, pas en France à cause de la guerre, mais partout. Cette nuit, plusieurs navires partiront, vers 1 heure du matin, qui est l'heure de la marée. Entre autres, la panse Vaugrat de Rotterdam. Le justicier quorum fit un mouvement d'épaule du côté d'Ursus. Soit, partez par le premier bateau venu, par la Vaugrat. Mon juge, fit Ursus. Eh bien,
Mon juge, si je n'avais, comme autrefois, que ma petite baraque à roues, cela se pourrait, elle tiendrait sur un bateau. Mais...
Mais quoi ?
Mais c'est que j'ai la Gwynbox, qui est une grande machine avec deux chevaux, et si large que soit un navire, jamais cela n'entrera.
Qu'est-ce que cela me fait ?
Dit le justicier.
On tuera le loup.
Ursus, frémissant, se sentait manié comme par une main de glace. Les monstres, pensa-t-il, tuer les gens, c'est leur expédient. Le tavernier sourit et s'adressa à Ursus. Maître Ursus, vous pouvez vendre la Gwynbox. Ursus regarda Nicless. Maître Ursus, vous avez offre.
De qui ?
Offre pour la voiture, offre pour les deux chevaux, offre pour les deux femmes Bréhaigne, offre...
De qui ?
Répéta Ursus. Du maître du circus voisin.
C'est juste.
Ursus se souvint. Maître Nicless se tourna vers le justicier Corum.
Votre honneur, le marché peut être conclu aujourd'hui même. Le maître du circus d'à côté désire acheter la grande voiture et les deux chevaux.
Le maître de circus a raison, dit le justicier, car il va en avoir besoin. Une voiture et des chevaux, cela lui sera utile. Lui aussi partira aujourd'hui. Les révérends des paroisses de Southwark se sont plaints des vacarmes obscènes de Tarenzo Field. Le shérif a pris des mesures. Ce soir, il n'y aura plus une seule baraque de bateleurs sur cette place. Fin des scandales. L'honorable gentleman qui daigne être ici présent... Le justicier Corum s'interrompit par un salut à Barkilphedro, que Barkilphedro lui rendit. L'honorable gentleman qui daigne être ici présent est arrivé cette nuit de Windsor. Il apporte des ordres. Sa Majesté a dit « Il faut nettoyer cela ». Ursus, dans sa longue méditation de toute la nuit, n'avait pas été sans se poser quelques questions. Après tout, il n'avait vu qu'une bière. Était-il bien sûr que Gwynplaine fût dedans ? Il pouvait y avoir sur la terre d'autres morts que Gwynplaine. Un cercueil qui passe n'est pas un trépassé qui se nomme. À la suite de l'arrestation de Gwynplaine, il y avait eu un enterrement. Cela ne prouvait rien. Post hoc, non propter hoc, etc. Ursus en était revenu à douter. L'espérance brûle et luit sur l'angoisse comme le naft sur l'eau. Cette flamme surnageante flotte éternellement sur la douleur humaine. Ursus avait fini par se dire « Il est probable que c'est Gwynplaine qu'on a enterré, mais ce n'est pas certain. Qui sait ?» Gwynplaine est peut-être encore vivant. Ursus s'inclina devant le justicier.
Honorable juge, je partirai. Nous partirons. On partira par la Vograte, pour Rotterdam. J'obéis. Je vendrai la Gwynbox, les chevaux, les trompettes, les femmes d'Égypte. Mais il y a quelqu'un qui est avec moi, un camarade, et que je ne puis laisser derrière moi. Gwynplaine.
Gwynplaine est mort, dit une voix. Ursus eut l'impression du froid d'un reptile sur sa peau. C'était Barkilphedro qui venait de parler. La dernière lueur s'évanouissait. Plus de doute, Gwynplaine était mort. Ce personnage devait le savoir, il était assez sinistre pour cela. Ursus salua. Maître Nicless était très bon homme en dehors de la lâcheté. Mais, effrayé, il était atroce. La suprême férocité, c'est la peur. Il grommela « Simplification !» Et il eut, derrière Ursus, ce frottement de mains particulier aux égoïstes qui signifie « M'en voilà quitte !» et qui semble fait au-dessus de la cuvette de Ponce Pilate. Ursus, accablé, baissait la tête. La sentence de Gwynplaine était exécutée, la mort. Et quant à lui, son arrêt lui était signifié, l'exil. Il n'y avait plus qu'à obéir. Il songeait. Il sentit qu'on lui touchait le coude. C'était l'autre personnage, l'acolyte du justicier Corum. Ursus tressaillit. La voix qui avait dit « Gwynplaine est mort » lui chuchota à l'oreille. « Voici 10 livres sterling que vous envoie quelqu'un qui vous veut du bien. » Et Barkilphedro posa une petite bourse sur une table devant Ursus. On se rappelle la cassette que Barkilphedro avait emportée. 10 guinées sur 2000, c'était tout ce que pouvait faire Barkilphedro. En conscience, c'était assez. S'il eût donné davantage, il y eût perdu. Il avait pris la peine de faire la trouvaille d'un lord. Il en commençait l'exploitation. Il était juste que le premier rendement de la mine lui appartint. Ceux qui verraient là une petitesse seraient dans leur droit, mais auraient tort de s'étonner. Barkilphedro aimait l'argent, surtout volé. Un envieux contient un avare. Barkilphedro n'était pas sans défaut. Commettre des crimes, cela n'empêche pas d'avoir des vices. Les tigres ont des poux. D'ailleurs, c'était l'école de Bacon. Barkilphedro se tourna vers le justicier Corum et lui dit « Monsieur, veuillez terminer, je suis très pressé. Une chaise attelée des propres relais de Sa Majesté m'attend. Il faut que je reparte ventre à terre pour Windsor et que j'y sois avant 2 heures d'ici. J'ai des comptes à rendre et des ordres à prendre. » Le justicier Corum se leva. Il alla à la porte qui n'était fermée qu'aux peines, l'ouvrit, regarda, sans dire un mot, les gens de police, et il lui jaillit de l'index un éclair d'autorité. Tout le groupe entra avec ce silence où l'on entrevoit l'approche de quelque chose de sévère. Maître Nicless, satisfait du dénouement rapide qui coupait court aux complications, charmé d'être hors de cet écheveau brouillé, craignit, en voyant ce déploiement d'exempt, qu'on appréhendât Ursus chez lui. 2 arrestations coup sur coup dans sa maison, celle de Gwynplaine puis celle d'Ursus, cela pouvait nuire à la taverne, les buveurs n'aimant point les dérangements de police. C'était le cas d'une intervention convenablement suppliante et généreuse. Maître Nicless tourna vers le justicier Corum sa face souriante, où la confiance était tempérée par le respect. Votre honneur, je fais observer à votre honneur que ces honorables messieurs les sergents ne sont point indispensables du moment que le loup coupable va être emmené hors d'Angleterre, et que ce nommé Ursus ne fait point de résistance, et que les ordres de votre honneur sont ponctuellement suivis. Votre honneur considérera que les actions respectables de la police, si nécessaires au bien du royaume, font du tort à un établissement et que ma maison est innocente. Les saltimbanques de la Green Box étant nettoyées, comme dit Sa Majesté la Reine, je ne vois plus personne ici de criminel, car je ne suppose pas que la fille aveugle et les 2 Brehaignes soient délinquantes. Et j'implorerai votre honneur de daigner abréger son auguste visite et de congédier ces dignes messieurs qui viennent d'entrer, car ils n'ont rien à faire en ma maison. Et si votre honneur me permettait de prouver la justesse de mon dire, sous la forme d'une humble question, je rendrais évidente l'inutilité de la présence de ces vénérables messieurs, en demandant à votre honneur, puisque le nommé Ursus s'exécute et part, qui peuvent-ils avoir à arrêter ici ? Vous, dit le justicier. On ne discute pas avec un coup d'épée qui vous perce de part en part. Maître Nicless s'affaissa sur n'importe quoi, sur une table, sur un banc, sur ce qui se trouva là, altéré. Le justicier haussa la voix tellement que, s'il y avait des gens sur la place, il pouvait l'entendre. Maître Nicless Plumtre, tavernier de cette taverne. Ceci est le dernier point à régler. Ce baladin et ce loup sont des vagabonds. Ils sont chassés. Mais le plus coupable, c'est vous. C'est chez vous et de votre consentement que la loi a été violée. Et vous, homme patenté, investi d'une responsabilité publique, vous avez installé le scandale dans votre maison. Maître Nicless, votre licence vous est retirée, vous paierez l'amende et vous irez en prison. » Les gens de police entourèrent le tavernier. Le justicier continua, désignant Govicom. « Ce garçon, votre complice, est saisi. » Le poignet d'un exempt s'abattit sur le collet de Govicom, qui considéra l'exempt avec curiosité. Le boy, pas très effrayé, comprenait peu, avait déjà vu plus d'une chose singulière, et se demandait si c'était la suite de la comédie. Le justicier Corom enfonça son chapeau sur son chef, croisa ses deux mains sur son ventre, ce qui est le comble de la majesté, et ajouta « C'est dit, maître Nicless, vous serez attrait en prison et mis en geôle, vous et ce boy. Et cette maison, Lynn Tadcaster, demeura fermée, condamnée et close, pour l'exemple. Sur ce, vous allez nous suivre.